16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les grandes grands reporters de l'histoire. Après André Violis et Martha Gellhorn, vous nous brossez Mathieu le portrait à 99% vrai d'une journaliste de choc toujours en activité, Florence Aubenas.
Oui, quand on se penche sur la biographie de Florence Aubenas et surtout sur ses reportages, on réalise que journalisme est vraiment un mot parapluie sous lequel on regroupe des métiers assez différents en termes de risques, puisqu'en effet, au sens du Larousse, est autant journaliste celui qui enfile un gilet pare-balles avant d'entrer dans la bande de Gaza pour couvrir l'intifada, que celui qui se chauffe la voix avant un carillon dans un studio du 15e arrondissement de Paris.
Il est 16h sur Europe 1.
L'un risque de se retrouver un couteau sous la gorge, l'autre risque au pire un chat dans la gorge. Florence Aubenas appartient clairement à la première catégorie de journalistes, ceux qu'on appelle les grands reporters. Qu'est-ce qui peut bien pousser une jeune journaliste à se tourner vers les reportages de terrain, parfois dangereux, toujours éprouvants, alors qu'elle pourrait se la couler douce au sein d'une belle rédaction climatisée avec une rutilante machine à balisto qui, pour 90 centimes d'euros, vous délivre ses merveilles à toute heure de la journée?
Chelou,
se dit Stéphane Bern, dans le contrat duquel il est stipulé noir sur blanc qu'il ne peut évoluer que sur moquette. Florence Aubenas, c'est d'abord...
Ah bah oui, c'est le minimum.
Non, c'est le minimum. C'est d'abord une certaine conception du journalisme. Mon boulot, dit-elle, c'est de faire avec le réel, de voir les choses à hauteur d'être humain. Et le réel, Florence, elle se les coltiner sans faire semblant, parfois au péril de sa vie, puisque si son nom est devenu célèbre, c'est qu'on l'a entendu au JT pendant plusieurs mois courant 2005. Tout le pays retenait son souffle. Florence Aubenas, journaliste de Libération, avait été enlevée à Bagdad en compagnie de son guide. Elle sera otage en Irak pendant 5 mois qui nous paraîtront des années. Vous imaginez, 5 mois à Bagdad, Stéphane, forcément elle n'a qu'une idée en tête.
Être bronzé.
Mais non, être libéré, Stéphane, libéré. Les ravisseurs manient tantôt le bâton, faites ceci sinon on vous égorge, tantôt la carotte pour vous faire enregistrer les vidéos qu'ils envoient à votre gouvernement, expliquera ensuite Florence. Dans mon cas, pour que je me prête à l'enregistrement, leur grand argument était « Quand tu seras libéré, tu écriras un livre et tu deviendras plus célèbre que Lady Di. »
Ah, génial !
Ah non, non, sur vous, ça aurait marché, Stéphane. Mais Florence, elle s'en fout d'être plus célèbre que Lady Di. Elle veut juste recouvrer sa liberté. En France, les soutiens se multiplient, des concerts sont organisés, souvenez-vous, notamment un à l'Olympia avec Patrick Bruel. L'idée était peut-être qu'en entendant Patrick chanter en arabe, les terroristes se rendraient. Je sais pas, ils n'en furent rien. Des lâchers de ballons furent également organisés, sans effet là aussi sur le moral des terroristes. On se disait peut-être, oh, ça va les émouvoir, tous ces jolis ballons. Non. Les mois passèrent, on colla un portrait géant de Florence sur la façade de l'hôtel de ville à Paris. Ses collègues écrivirent une tribune bouleversante dans la presse demandant sa libération immédiate, arguant du fait qu'elle était, je cite, « une fille drôle et sympathique au talent immense ». Sous-entendu, s'il avait été renfrogné et pas doué, vous auriez pu la garder. Et enfin, le 12 juin au matin, un communiqué du ministère des Affaires étrangères annonce la libération de Florence et d'Hussein, son fixeur. Soulagement général doublé d'une certaine excitation, Patrick Bruel propose au Quai d'Orsay de l'attendre au pied de l'avion avec sa guitare, il pourrait lui chanter.
On s'était dit rendez-vous.
On lui dit non Patrick, ça ira, elle a déjà beaucoup souffert là-bas, tu sais. Hélas, après 157 jours de captivité, Florence n'est pas au bout de ses peines. En rentrant de Bagdad, son avion fait escale à Chypre. C'est la dernière épreuve de l'aventure pour Florence, l'équivalent de l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta. À Chypre, donc, on lui colle une réunion avec Philippe Douste-Blazy, ministre des Affaires étrangères. Le coup de banc, tu viens de te taper 157 jours de captivité, tu n'as qu'une envie, serrer tes proches dans tes bras. Eh bien non, tu dois te coltiner 5 heures de conversation avec Douste-Blazy dans un terminal chypriote. Comme dirait David lorsqu'il découvre que quelqu'un a tapé dans son viandox, la vie est une tepue. Une fois l'épreuve Douste terminée, il reste à Florence l'épreuve de la conférence de presse où elle raconte les conditions de sa détention. Alors là, peu de surprise, on se doutait bien que c'était pas un Sofitel de Tunis avec buffet à volonté et musiciens locaux. On découvre que ses ravisseurs lui interdisaient de parler, de marcher plus de 24 pas par jour. Pour vous situer, 24 pas par jour, c'est le bilan santé iPhone de Stéphane, un dimanche à Tiron-Gardet. Hein, transat, piscine, piscine, transat, piscine, 24 pas.
Pas de piscine.
Oui, bah bientôt. Concernant la libération de Florence, un doute persiste, la France a-t-elle versé une rançon ? Non, Stéphane, enfin la France ne verse jamais de rançon. Si on commençait à dire qu'on verse des rançons, ça pourrait encourager les deux groupes terroristes à demander des rançons. La version officielle est donc pas de rançon. Mais voilà, il y a François Hollande.
Yeah.
Qui, dans le livre rudement bien nommé « Un président ne devrait pas dire ça », affirme que la France a bien payé une petite rançon. Un article du Times parle même de 15 millions de dollars demandés par les ravisseurs et de 10 petits millions versés. Alors bien sûr, cet épisode de la détention en Irak est important, mais il ne faudrait pas réduire Florence à ça. Sa carrière est extrêmement extrêmement riche. Pour résumer, c'est simple, elle a été partout. Banlieue chaude, pays en guerre, commissariat, tribunaux, usines en grève. Elle va là où personne ne veut aller. Elle aurait pourtant pu être auteure de bande dessinée. Sa première passion, Florence Aubenas, née le 6 février 1961 à Bruxelles, d'une mère journaliste, fondatrice d'une revue féministe. Son père, lui, est diplomate. Petite, elle dévore donc des BD, puis se lance dans des études littéraires avant d'intégrer le CFJ, Centre de formation des journalistes. C'est là qu'elle apprend ce qui est l'alpha et l'oméga de toute carrière journalistique, le souci de la précision. Ce souci qui anime les meilleurs journalistes historiquement vôtres, comme Olivier Pouls.
Le terme « pomme dauphine » fait référence à l'épouse de l'héritier du trône de France, le dauphin.
Mais lequel dauphin ? Tous les rois de France ont eu un dauphin.
Oui, alors
lequel ?
Ben le premier, prenons le premier.
Mais oui, c'est cette même rigueur, ce goût de l'investigation poussée qui permettra à Florence Aubenas de devenir grand reporter à Libé, puis au Nouvel Obs, puis au Monde. Elle fait ses armes au Rwanda, au Kosovo, en Algérie, en Afghanistan, en Irak. Elle parcourt le monde en long et en large. Elle s'en forge une vision exhaustive. Elle connaît par exemple chaque spécificité de chaque pays, de chaque région du monde. Pas comme Stéphane, qui par exemple, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam pour lui.
Tout ça, c'est pareil, quoi. C'est l'Indochine.
Quand elle reste en France, ouais, c'est une autre vision du journalisme. Quand elle reste en France, Florence couvre les plus grands procès d'assises comme Outreau, où elle sera d'ailleurs une des premières à exprimer des doutes quant à la culpabilité de plusieurs accusés finalement innocentés. En 2009, elle se lance dans un journalisme que je qualifierais de « vie ma vie journalisme ». Pour rendre compte de la vie des travailleurs précaires, elle prend un congé sans solde, elle s'installe dans une chambre d'étudiants à Caen, s'inscrit au Pôle emploi en cachant évidemment son métier de journaliste et prétend n'avoir qu'un bac littéraire. Pour survivre, très vite, elle se retrouve en fait obligée d'utiliser l'argent que lui a rapporté son précédent livre sur le procès d'Outreau. « J'avais mis cette somme de côté, c'était sacré », dit-elle. « Je me disais que je n'allais quand même pas acheter une voiture avec l'argent d'Outreau ». Ah ben non, décidément. C'est pour ça qu'on aime Florence. Cette intégrité qu'on ne peut jamais prendre en défaut, bah, je peux vous dire qu'ils sont nombreux, ceux qui n'auraient pas vu le mal à s'acheter une bagnole avec les droits d'auteur d'un bouquin sur Outreau. Comme quelqu'un que je connais qui a dit un jour « Une fois en concession Porsche, l'argent n'a plus d'odeur ». Après avoir enchaîné les petits boulots, Florence travaille comme femme de ménage sur les ferries et au quai de Ouistreham. Ça donnera le livre « Quai de Ouistreham » qui sera un succès de librairie. Comment se fait-il que personne ne l'ait reconnue, me direz-vous ? Après tout, on est après sa médiatisation de 2005. Hein. Elle raconte « J'ai juste organisé ma disparition en annonçant que j'allais écrire un livre sur le Maroc. Mon seul souci était de me rendre méconnaissable puisque je ne voulais pas changer de nom ni mes papiers. Je suis devenue blonde, les cheveux tirés en arrière et j'ai mis des lunettes. Des amis qui m'ont vu la veille de mon départ m'ont dit « Tu es bien mieux comme ça ». Tu vois quand tu veux. Sympa des amis comme ça. Le plus dur, c'est de tenir le mensonge sur la durée. Plus le temps passait, plus cela se rapprochait du journal intime. Au bout d'un mois, on lâche prise. Je n'étais plus quelqu'un qui surplombe, mais quelqu'un qui a perdu le contrôle et tente de surnager. Chaque jour, épuisée par le balai et la serpillière, Florence redoute d'être démasquée et de passer, je cite, « pour bécassine chez les pauvres ». Mais personne ne la démasquera et le livre sera un témoignage très fort. Un autre livre aurait dû suivre, un livre sur l'immersion en banlieue, sauf que là, elle sèche, elle n'y arrive pas. Au bout d'un an et demi, elle lâche prise et renonce à ce projet qui l'avait amenée à vivre dans une tour HLM de Nanterre, dans la cité du Pablo. En 2018, elle s'invite sur les ronds-points à la rencontre des Gilets jaunes. Elle en fait un carnet de bord pour le journal Le Monde. Et plus récemment encore, elle s'est intéressée à un fait divers dont tout le monde se foutait. Le meurtre d'une guichetière de La Poste. Ça donnera le livre L'inconnu de La Poste, livre acclamé de tous, sauf de Christophe Ondelat qui dira hey « Eh oh, est-ce que je vais en Irak, moi ?» Bref, Florence Aubenas, vous l'avez compris, c'est une grande reporter qui fait passer son confort et même sa vie après son métier. À l'issue de ce portrait, apparemment beaucoup de réactions au 39-21 pour dire que c'est un scandale qu'une journaliste aussi exceptionnelle que Florence Aubenas gagne moins que Stéphane Bern et Mathieu Noël. Écoutez, je comprends votre réaction, même au sein de notre propre équipe, certains nous ont déjà fait cette réflexion, mais je crois qu'il faut savoir aussi le travail qu'il y a derrière la prestation qu'on facture chaque après-midi avec Stéphane. On va peut-être pas en Irak, ni à Ouistreham, mais on propose vraiment une co-animation au cordeau, et une co-animation au cordeau, ça implique un perfectionnisme de chaque instant qui, je suis désolé, a un prix.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Isabelle.
Oui.
Bonjour.
Vas-y, on va faire.
Bonjour Isabelle.
Quand je pense que tout ce que vous devez être payé pour faire ça, bonjour Isabelle.
Très cher.
Oh, on est de la même trempe que Florence Aubenas.
On a surtout beaucoup d'autodérision, oui, et c'est tant mieux.
Heureusement.
Merci Mathieu, c'était 100% vrai, non ?
Oui, sauf Patrick Bruel. Hein, il a vraiment chanté pour Florence Aubenas, mais il n'a pas chanté à Bibi à Lille pour effrayer les théories.
Europe 1, historiquement vôtre.